Et les matins débutent avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Deux bases américaines en Irak viennent d'être frappées par l'Iran. 15 missiles ont été tirés. Les États-Unis évaluent les dommages. Dans un instant, on fait le point sur ce que l'on sait de cette riposte iranienne après la mort du général Soleimani.
Carlos Ghosn va se montrer en public aujourd'hui pour la première fois depuis sa fuite du Japon. L'ancien PDG de Renault-Nissan donnera cet après-midi une conférence de presse à Beyrouth. Accusé de malversation financière, il s'est installé au Liban.
L'unité sur la réforme des retraites commence-t-elle à se fissurer au sein de la République en marche? Des députés de l'aile gauche ne semblent pas partager la vision de l'exécutif sur l'âge pivot. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe a accepté la proposition de la CFDT d'organiser une conférence de financement du système.
35% des directeurs d'école interrogés veulent de l'aide. Pour les tâches administratives, le ministère de l'Éducation nationale a publié hier les résultats d'une enquête.
Une consultation lancée après le suicide de Christine Renon, directrice d'école. Et la question du jour, Guillaume.
Attaque au couteau, comment la psychiatrie peut-elle évaluer la responsabilité des auteurs? Alors on posera la question à un médecin psychiatre, Guillaume Monod.
L'Iran a riposté. 15 missiles ont été lancés contre des bases abritant des soldats américains en Irak. 11 ont atteint leur cible. Des représailles engagées 5 jours après l'élimination du général Qassem Soleimani par les États-Unis. Depuis, les relations entre les deux pays sont particulièrement tendues. Bonjour Omar Waman.
Bonjour Margot.
Envoyé spécial en Irak pour France Culture, l'heure de la riposte n'est pas due au hasard.
Oui, à 1h20 du matin, très exactement, c'est l'heure précise de la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué dans la nuit de jeudi à vendredi à Bagdad. Tout un symbole. Ces missiles se sont abattus sur deux bases irakiennes, des bases utilisées par les forces américaines qui dirigent la coalition internationale en Irak. Une à Ain al-Assad, une base qui se trouve à 180 km à l'ouest de la capitale, Bagdad, dans une zone désertique dans la province d'Al-Anbar. L'autre site militaire frappé cette nuit se trouve dans le nord de l'Irak, à Erbil, dans la région du Kurdistan, allié historique des États-Unis. Ces attaques survenues en 3 vagues ont été immédiatement revendiquées par les gardiens de la révolution, les Pasdaran, bras armés de l'ayatollah Khamenei, le guide suprême iranien, qui avait appelé à venger sévèrement la mort de Qassem Soleimani, qui ne pouvait pas rester sans réponse de la part de Téhéran, qui a décidé de frapper peu après les funérailles du général iranien qui se sont déroulées hier dans le sud-est de l'Iran.
Mais sur l'échelle des représailles, où se situe l'offensive iranienne de cette nuit, Omar?
Alors c'est en fait une riposte proportionnée et surtout ouverte, directe. C'était le souhait du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, frapper directement les intérêts américains et ne pas avoir recours aux nombreuses milices pro-iraniennes en Irak ou au Liban comme le Hezbollah. Peu après ces représailles, un conseiller du guide suprême a posté sur Twitter un drapeau iranien en réponse au président américain Donald Trump, qui avait tweeté un drapeau aux couleurs de l'Amérique après la mort de Qassem Soleimani.
Les précisions d'Omar Waman. La télévision publique iranienne annonce ce matin que les frappes ont fait 80 morts. On ne connaît pas encore les nationalités. On attend une déclaration du président américain Donald Trump en début d'après-midi, heure française. Ce matin, les cours du pétrole s'envolaient de plus de 4,5% dans les échanges en Asie. Une autre actualité, encore en Iran, au moins 170 personnes sont mortes ce matin dans le crash d'un Boeing 737. L'avion s'est écrasé après avoir décollé de Téhéran. Il devait prendre la direction de Kiev. Il appartient à la compagnie Ukraine International Airlines. Il est impossible que des passagers soient en vie, d'après le chef du Croissant Rouge iranien. Carlos Ghosn promet de faire éclater la vérité. L'ex-patron de Renault-Nissan est victime d'un complot politico-industriel, selon son épouse. Il s'explique aujourd'hui lors d'une conférence de presse à Beyrouth où il se trouve depuis sa fuite du Japon fin décembre. L'ancien mania de l'automobile est soupçonné de malversation financière par la justice japonaise. Des journalistes du monde entier seront présents pour entendre sa version des faits. L'un de ses avocats, François Zimret, s'en réjouit.
C'est un moment très important pour lui. Il a un désir très profond de pouvoir répondre à ces accusations injustes qui sont formulées contre lui depuis plus d'un an. Quand vous êtes arraché à votre vie brutalement, à votre entreprise, à votre famille, privé de tout lien affectif, jeté dans une prison dans les conditions dans lesquelles il a été détenu, vous n'avez qu'une envie, c'est de pouvoir répondre, de raconter ce qu'il a vécu, bien sûr, ce qui s'est passé, de répondre aux informations fausses qui ont circulé. Je crois que chacun comprendra que pour des raisons absolument évidentes, sur les conditions de son départ, il ne s'étend pas. Pour lui, venir ici, ce n'est pas une fuite, c'est venir au devant des questions et de cette explication qu'il attend et à laquelle il a le droit depuis le premier jour.
François Zimeray, propos recueillis par Aurélien Colli. Hier, le parquet de Tokyo a annoncé avoir obtenu un mandat d'arrêt contre son épouse, Carole Ghosn. Elle est soupçonnée de faux témoignages dans l'enquête visant son mari. Lui fait l'objet d'une demande d'arrestation par Interpol. Ça n'a pas été simple, mais Juan Guaido a fini par prêter serment hier comme président du Parlement vénézuélien. Un statut qui lui permet de revendiquer celui de président par intérim et de continuer son combat contre Nicolas Maduro. Un autre député de l'opposition revendique ce poste, Luis Parra, qui s'est proclamé président du Parlement dimanche après un vote à main levée improvisé, alors que Juan Guaido et des dizaines de députés étaient bloqués à l'extérieur par l'armée. La situation hier a failli se répéter. Le reportage à Caracas de notre correspondant Benjamin Delisle.
Pendant près d'une heure, Juan Guaido et les 100 députés qui l'ont élu dimanche restent bloqués devant les boucliers anti-émeutes de l'armée et sous les huées des partisans chavistes. Une heure pendant laquelle Luis Parra préside une séance devant un hémicycle à moitié vide. C'est seulement à la fin de cette séance que les députés Juan Guaido en tête peuvent passer les grilles.
Ici, il n'y a pas eu de séance. Il n'y a que des complices de la dictature sans le quorum nécessaire, sans la majorité, sans légitimité. Ce n'est pas à l'armée de décider qui est député, qui ne l'est pas. C'est le peuple du Venezuela qui doit décider de l'avenir.
Derrière lui, Luis Parra s'éclipse sans un mot sous les insultes de ses anciens alliés. Et les députés chavistes réunis dans la cour observent d'un œil amusé ce triste spectacle. Juan Marín.
Ils se sont divisés, ils ne s'entendent plus, et avec cette violence, ils ne s'entendront jamais.
La majorité guaidiste se précipite ensuite sur les portes closes de l'hémicycle et force le passage pour investir la chambre. Après l'hymne vénézuélien en signe de victoire, une nouvelle séance parlementaire s'ouvre quand soudain, l'électricité se coupe. C'est donc dans le noir que Juan Guaido prête enfin serment du haut de son perchoir. Mais cela ne change rien, le Parlement a toujours deux présidents et en spectateur, un gouvernement qui se frotte les mains.
Et Juan Guaido a ensuite appelé ses compatriotes à manifester demain, vendredi et samedi.
7h07 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Margot Delpierre. Édouard Philippe accepte d'organiser une conférence de financement du système de retraite.
Les partenaires sociaux sont invités à Matignon vendredi pour en discuter. C'est un pas de fait en direction de la CFDT à l'origine de cette proposition. Le syndicat est favorable à un système universel de retraite par points mais refuse la mise en place d'un âge pivot à 64 ans. Dans les rangs de La République En Marche, on se questionne sur cette réforme des retraites. Certains élus de l'aile gauche qui se sont récemment exprimés dans le journal du dimanche sont agacés, notamment par l'âge pivot. Les langues se délient chez les macronistes, Rosalie Lafarge.
Même s'il n'est pas très friand des dernières tribunes publiées dans la presse, le patron du groupe La République En Marche à l'Assemblée, Gilles Legendre, refuse de parler de fronde.
Il n'y a pas de divergence idéologique à l'intérieur du groupe La République En Marche sur ce texte. Aucune.
Mais quand on écoute Delphine Bagary, députée macroniste de l'aile gauche, on n'a pas l'impression d'un total alignement avec le Premier ministre.
On ne peut pas se passer de la CFDT. Il faut arrêter l'âge pivot. Cette notion d'âge pivot qui était la ligne rouge, il faut donc revenir dessus, c'est obligatoire.
Son collègue à l'origine de la tribune de dimanche, Jean-François Césarini, va même un peu plus loin à l'encontre d'Édouard Philippe.
Quand on voit les propositions de Laurent Berger et celles qu'on a pu faire nous avec l'aile gauche de la majorité, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'alternative. Les alternatives existent et un compromis est possible. S'il n'y a pas de compromis effectif dans quelques semaines, il faudra se demander où est la mauvaise volonté.
Ces positions, ils sont au moins une vingtaine à les partager, mais elles agacent certains de leurs collègues. Ce n'est pas ce qu'on entend dans nos circonscriptions, répond par exemple l'un des porte-parole du groupe, Hervé Berville.
Le premier sentiment qui a été très fort, c'est de dire il faut faire cette réforme des retraites, c'est vraiment la première chose. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on ne peut pas être dans une situation où on ferait une réforme sans qu'il y ait derrière une stratégie financière et budgétaire. Donc c'est ça qui est revenu du terrain.
Et c'est ça qu'il faut continuer à rapporter sur le terrain, insistent plusieurs macronistes. Mais même parmi les plus fidèles, on commence à s'interroger plus globalement sur l'attitude de l'exécutif. Un jeu parfois trouble et en ce moment dangereux, admet l'un des piliers du groupe à l'Assemblée.
L'intersyndicale CGT, FO, Solidaire, CFE-CGC et FSU appellent à une nouvelle journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle. Demain, ce sera la quatrième du genre. La RATP prévoit un trafic encore perturbé en Ile-de-France. Aucune ligne de métro n'est totalement fermée en raison de la grève. Mais comme depuis 35 jours, certaines ne circulent que partiellement et aux heures de pointe. Pareil à la SNCF, des perturbations avec 75% des TGV et un Transilien sur deux en circulation. La situation est grave et préoccupante pour l'entreprise, estime son PDG, avec déjà plus de 700 millions d'euros d'impact économique, selon Jean-Pierre Farandou. Il se rajoute, dit-il, aux 800 millions d'euros de pertes liées au conflit de 2018 contre la réforme ferroviaire. Le taux de grévistes à la SNCF était de 6,6% hier matin, selon la direction. Plus de 35% des conducteurs ont cessé le travail. Les directeurs d'école assurent qu'ils passent trop de temps sur des tâches administratives. C'est notamment ce qui ressort d'une enquête dont les résultats ont été publiés hier par le ministère de l'Éducation nationale. Elle a été réalisée en novembre après le suicide d'une directrice d'établissement dans son école de Pantin en Seine-Saint-Denis. Près de 30 000 personnes ont participé à cette consultation, soit 64% de la profession. Les directeurs demandent de l'aide pour gérer les accès à l'école et l'administratif dans l'espoir de pouvoir consacrer plus de temps à leur cœur de métier. Il faut maintenant que l'institution, le ministère, élabore des solutions concrètes. C'est urgent, selon Francette Popineau, secrétaire générale du SNUIP FSU.
L'institution n'a plus d'excuses, puisque le constat, elle l'a dans les mains, elle a fait une enquête. Cette enquête ne dit pas que les collègues veulent un statut hiérarchique pour commander leurs collègues. Ils disent on veut être aidés au quotidien pour effectivement un certain nombre de tâches qui nous détournent, des tâches qui sont essentielles à cette fonction. C'est très clairement exprimé, ils demandent de la formation, ils demandent du temps, ils demandent de l'aide. Maintenant, il revient à l'institution de faire un traitement rapide de ces questions-là. Des choses peuvent se faire tout de suite. La notion de temps, ça peut être quelque chose qui peut être résolu extrêmement rapidement. Sans doute que pour l'aide à la direction, il faudra un peu plus de temps, mais il faut commencer à se mettre autour d'une table et puis commencer à travailler sur un plan pluriannuel. Donc là, il n'y a pas d'excuse. Il y a unanimité syndicale aussi sur l'urgence à traiter ces questions. Cette problématique, elle arrive aussi à un moment extrêmement grave qui était lié au décès de Christine Renon. Donc le fait de régler la question de la direction d'école ou en tout cas d'apporter des améliorations concrètes à la direction d'école, c'est aussi pour s'éviter des drames de ce genre. Donc, ça amplifie l'urgence de cette question.
Francette Popineau du SNUIP-PPFSU interrogée par Anne-Laure Chouin. Du gris au nord avec quelques pluies, un peu de soleil. Au sud, le temps est assez partagé aujourd'hui. Vous n'aurez pas plus de 6 degrés à Strasbourg, 12 à Lille et Brest, 13 à Paris et Bordeaux et 16 degrés à Nice.